Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec vous, avec notre invité. Notre invité, c'est l'un des visages, mais aussi l'une des voix les plus connues du paysage audiovisuel français. Il a fait vibrer les ondes des grandes radios, quasiment toutes, hein, RTL, Europe 1, France Inter. Il a occupé le tube cathodique hein, quand même pendant de très nombreuses années, sur France 3 par exemple. On ne peut pas plaire à tout le monde également avec Le Divan. Ou sur M6, hein, il a incarné le talk show « T'empêche tout le monde de dormir ». Mais depuis 2019, il est passé de l'autre côté de l'écran. Il a décidé de rester dans l'ombre hein, des caméras. Cette fois, en effet, pour diriger la première chaîne d'information de France. Marc-Olivier Fogiel, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour Damien.
Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Bonjour
à tous.
Alors depuis 2019, déjà, hein, l'été 2019,
ouais, vous avez
deux ans et demi, pris la direction générale de BFM TV, hein, poste, on va dire dans l'ombre, après avoir vécu 20 ans dans la lumière.
Oui, même un peu plus de 20 ans.
Un peu plus de 20 ans.
J'ai commencé à l'antenne en 92.
Ah oui,
donc,
il y a prescription.
Oui,
il y a
28 ans, ça fait 28.
Ça fait longtemps, il n'était pas né.
Justement, je suis né en 92.
Et bien voilà, il naissait. Voilà.
Ouais, donc, entre patron d'une chaîne de télévision d'information continue, ça ne s'arrête jamais, on le sait, a priori.
Ouais.
Et finalement, le métier de producteur, animateur, présentateur, qu'est-ce qui est finalement le plus agréable ?
Là où j'ai pris le plus de plaisir, je ne sais pas vous répondre comme ça. Ce que je peux dire, c'est que c'est tout le temps intéressant, c'est tout le temps harassant. C'est des sujets complexes et différents. Et le fait que ça ne s'arrête jamais... c'est problématique. Parce que j'ai déjà beaucoup bossé, notamment en radio, quand je faisais la matinale, je me levais à 1h45, je restais après le 20h avec Alexandre Bompard, on avait ce projet industriel de redresser voilà, Europe, et mon boulot était de l'accompagner là aussi. Donc c'était beaucoup de boulot, mais il y a un moment donné où ça s'arrêtait. BFM TV, mon prédécesseur Hervé Béraud, avec qui je continue à travailler, m'avait prévenu, ça ne s'arrête jamais, il y a toujours quelque chose, donc c'est tout le temps passionnant. Mais à un moment donné...
C'est épuisant.
C'est épuisant.
On tient combien de temps, donc question évidemment
Je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, j'ai de l'intérêt. J'ai du mal à dire du plaisir, même si c'est évidemment, c'est impossible à faire sans plaisir. Mais c'est d'abord intéressant avant d'être du plaisir. Voilà.
Et surtout, quand on en parlait tout à l'heure avec la campagne présidentielle, ouais. L'antenne ne vous manque pas du tout ?
Alors franchement, pas du tout. Je ne me dis pas que je n'en referai pas. Je pense même que j'en referai un jour. Mais pas tant que j'ai ces fonctions-là. Ça s'est produit plusieurs fois depuis deux ans que notamment des invités me disent, parce que j'essaie de monter des coups pour BFM, oui, mais avec toi. Et à chaque fois, je m'arrange pour amener ça à quelqu'un d'autre parce que je ne veux pas me retrouver dans la configuration d'être
à la tête. On ne peut pas être patron et en même temps présenter, ce ne serait pas possible.
Ça serait difficile.
Ça serait difficile.
Ça serait difficile. Pourquoi cette interview-là ? Enfin, tout serait scruté autrement. En tout cas, je n'ai pas envie de me retrouver dans cette configuration-là, a priori, par rapport aux gens avec qui je travaille au quotidien. C'est plus facile d'avoir des commentaires sur le boulot des autres quand soi-même, on ne se met pas dans la mêlée. Enfin bon, bref, je n'ai pas envie de me retrouver dans un truc de potentiel conflit d'intérêts. Ou d'interprétation. D'interprétation. J'ai pas envie, par exemple, ça s'était passé au tout début, j'avais convaincu Luc Besson de venir parler pour la première fois et seule fois de ses problèmes d'accusation d'agression sexuelle. Je connais Luc Besson depuis très longtemps, je pense que je l'aurais très bien interviewé, Apolline de Malherbe l'a très bien interviewé, mais je pense que si je l'avais fait moi-même, on aurait dit, ah oui, mais c'est parce qu'il le connaît, alors j'ai pas envie de me remettre dans une... J'ai pas envie en fait de fragiliser l'image de BFM TV à travers ce que je peux faire.
Les réseaux sociaux auraient fini l'affaire en plus.
Ouais, donc c'est pas la peine en fait. Et puis il y a des très bons professionnels à BFM TV qui savent le faire aussi très bien et différemment. Donc à partir du moment où j'ai accepté de faire ce boulot-là, c'est pour se mettre dans ce rôle-là et pas pour être partout tout le temps et être omniprésent. Ça m'intéresse pas.
C'est dit, nous sommes en direct avec Marc-Olivier Fogiel hein, sur le Figaro Live. Je rappelle, c'est diffusé sur le Figaro.fr également, la page YouTube hein, de TV Magazine. Ben, que pensez-vous de la ligne éditoriale de BFM ? C'est l'occasion de lui poser des questions, lui parler également de ses projets personnels. Il a évoqué peut-être le fait de revenir un jour sur le petit écran, mais peut-être pas aujourd'hui.
Pas aujourd'hui, non. J'ai pas de projet en cours, en tout cas, du tout.
Dites-nous tout et en attendant, on retrouve tout de suite Damien Canivès pour les news médias du jour. Bonjour Damien.
Bonjour Philippe, bonjour Marc-Olivier.
Salut Damien.
Tradition au bout, Marc-Olivier Fogiel, on démarre par les audiences télé de la veille. Il y a un sujet que vous regardez, j'imagine, en permanence.
pas en permanence, mais oui, on regarde évidemment, et notamment celle de BFM, ouais. Ça tombe à 11h différence.
Effectivement.
Tienne, c'est à 9h.
C'est ça, mais nous, on parle des audiences qui tombent à 9h03, quelque chose comme ça. Voilà, les audiences de prime time, effectivement. Et hier, la première place s'est jouée dans un mouchoir de poche, mais c'est bien France 2 qui arrive sur la première marche du podium grâce au film Jusqu'à la garde. Ce long métrage porté par Léa Drucker et Denis Bénochet a rassemblé un peu plus de 3 millions de téléspectateurs, 14% du public. À titre de comparaison, c'est 280 000 téléspectateurs de plus qu'M6 qui poursuivait la diffusion de la 16e saison de La France, un incroyable talent. Cette émission toujours portée par Karine Lemarchand signe malheureusement un score en baisse par rapport à la semaine dernière. TF1 monte quant à elle sur la 3e marche du podium grâce à sa série New Amsterdam. Et enfin, on termine avec Canal+, qui signe un score très honorable grâce à la rencontre entre Manchester City et le Paris Saint-Germain pour le compte de la Ligue des Champions. Près de 700 000 supporters ont applaudi la qualification des Parisiens en 8e de finale, ce qui représente 6,7% du public.
Les fans de foot vous écoutent.
Ah, exactement, j'espère bien. Surtout ceux de l'Olympique de Marseille, je pense.
On parlait de fiction, Marc-Olivier Faugier. En 2018, vous aviez publié un livre.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle a, ma famille,
qui parlait de l'histoire
de votre
livre,
aventure. Et vous racontiez la GPA.
La GPA, je partais de mon aventure. Et puis après, c'était une enquête dans le milieu de la GPA avec différentes histoires et différentes problématiques. Ouais. Et ça va être donc adapté.
Alors justement, puisque on parlait de fiction, ça a été adapté par France Télévisions. Donc a priori, le tournage est terminé.
J'ai vu le téléfilm qui a le mérite de très bien poser la problématique de la GPA.
Ça reste une fiction ou c'est
ça reste une fiction, c'est pas mon histoire, ça je voulais pas que...
C'est pas un document notamment, réalité
Non, ou... ça reste une fiction, en fait c'est deux couples, un couple hétérosexuel, un couple homosexuel qui se lance dans l'aventure de la GPA avec toutes les problématiques que ça peut poser, avec les difficultés et les questions éthiques, et c'est le récit de ces deux histoires avec grosso modo un peu tout ce qu'il y avait dans le livre condensé à travers ces deux histoires. Je crois que ça va être diffusé dans le premier trimestre 2022 sur France 2, il y aura un débat
France
après.
France 2 donc, elle est déjà à la chaîne.
Oui, c'est pour France 2, il y aura un débat après. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas une fiction angélique. Il y a plein de questions, notamment, vous verrez dans la fiction, il y a la maman de la jeune femme qui a recours à la GPA, par exemple, qui trouve qu'acheter un bébé, puisque ça lui pose un problème éthique, évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est sa vision, comme la vision de pas mal de gens. Et ben voilà, il y a son parcours à travers ça. Et d'ailleurs, je ne vais pas spoiler la fin du téléfilm, mais ça ne se termine pas forcément de façon très heureuse de ce point de vue-là. Donc, ce n'est pas une fiction idyllique, ça pose un certain nombre de problèmes, et ce qui était super pour moi, c'est qu'en revanche, les mères porteuses, ce qui était l'objet d'un chapitre de mon livre, ont la parole dans ce téléfilm, puisqu'elles sont incarnées, elles sont jouées par deux comédiennes canadiennes, puisque les GPA se passent au Canada là-bas, et ça montre bien pourquoi elles font ça. Et de ce point de vue-là, à mon avis, ça sera peut-être polémique pour ça, parce que les détracteurs trouveront qu'elles ont c'est une place peut-être enjolivée donnée aux mères porteuses. Or, c'est la réalité. Mais à mon avis, ça sera la polémique portera là-dessus.
Donc, rendez-vous sur France 2 au premier trimestre de l'année prochaine. Mm-hmm. On poursuit les news, cette fois avec un sujet peut-être plus léger, le concours Miss France et surtout... le test de culture générale qu'on ne va pas vous faire passer, Marc-Olivier. Ah,
Mais pourquoi pas, Marc-Olivier. Allez, on commence une première question.
Dites-moi tout.
Allez, qui occupe actuellement le poste de ministre de l'Intérieur ? Bernard Cazeneuve, Christophe Castaner ou Gérald Darmanin ?
Joker, Gérald Darmanin.
Gérald Darmanin, bon, bravo Marc-Olivier.
C'est ça la question
C'était l'une des questions.
En même temps, oui, enfin, je comprends. Ouais.
Ah, oui. Donc vous pourriez très certainement faire partie des 15 finalistes, en tout cas. Voilà, des 15 finalistes, du coup.
Je n'ai pas la prétention de présenter à Miss France.
Il manque quelques critères, on vous en parlera après l'interview. Alors les 29 candidates, effectivement régionales, se trouvent actuellement, on le rappelle, sur l'île de la Réunion, afin de répéter le grand spectacle qu'elles proposeront en première partie de soirée le 11 décembre prochain sur TF1. Et hier, en fin d'après-midi, les prétendantes à la couronne Miss France ont planché sur un test de culture générale, alors qui n'est certes pas éliminatoire, mais qui pourrait compromettre leur place parmi les 15 finalistes. Elles ont dû répondre à un questionnaire à choix multiples composé de 40 questions qui portent sur des thèmes assez variés, comme la politique, la géographie, l'art, mais aussi la logique. Et l'année dernière, Amandine Petit, qui est la Miss France en titre, avait obtenu la note de 14,5. Elle s'était classée à la 3e position. Bon, pour l'instant, on n'a pas les résultats de ce cru-là.
On attend.
On patiente.
Marc-Olivier Faugiel, question façon RTL.
Ah,
Miss France, stop ou encore ?
Non, encore. J'ai bien vu les polémiques sur Miss France, mais je trouve que c'est quand même une institution.
L'association féministe qui fait que c'est notre créneau.
Non, moi, je n'ai pas de difficulté avec Miss France. Les jeunes filles qui y participent sont évidemment consentantes. C'est un moment... ça fait partie de la culture française. Bon, voilà, j'ai pas de difficulté avec ça.
C'est un vrai rendez-vous familial, quoi.
Ouais, c'est un rendez-vous familial.
Il y a plus de 8 millions de téléspectateurs.
Ouais, hein.
On bat un record à nouveau cette année.
C'est rare, hein, la télé aujourd'hui, elle est moins fédératrice qu'elle a été. Moi, quand j'ai voulu faire de la télé quand j'étais gamin, c'est parce qu'avec mes parents, on regardait la télé de façon. Et le lendemain, on en parlait à l'école. Aujourd'hui, c'est moins ça, la télé. Mais il reste encore le foot, quelques émissions fortes qui permettent ça. Et Miss France, ça permet ça. Franchement, c'est déjà pas mal.
Gardons-les.
Ouais.
Merci Damien.
Avec plaisir.
Et place tout de suite à l'interview du Buzz. On continue avec Marc-Olivier Fogiel sur ce plateau. Tout à l'heure, vous êtes directeur général depuis 2 ans et demi de BFM Télé. Ce soir, vous inaugurez une nouvelle case, une nouvelle émission, un nouveau rendez-vous face à BFM TV. Et c'est avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on va apprendre des choses nouvelles sur Jean-Luc Mélenchon ?
En fait, face à BFM, on l'a inauguré l'année dernière, mais avec un certain nombre de gens de la classe politique. Là, ce qui est nouveau, et ça commence ce soir, c'est avec les candidats. Donc, on l'a estampillé présidentiel. Et ce qui nous semble intéressant, et ce qui est un peu aussi ce qu'on a essayé de faire à BFM depuis des années, c'est aussi de creuser les sujets. Et là, il va pouvoir développer son programme et être questionné et être challengé sur son programme. Pas commenter l'actualité, pas commenter la vie politique, ce qui existe aussi
mais
ailleurs,
mais
on rentre dans le dur. Et je pense que BFM, ça a cette particularité, c'est d'être très concret et d'être très proche des préoccupations des gens. Et à travers la vie politique, je pense qu'on peut être très concret et pas être dans des sphères qui ne concernent personne. Et notamment, et c'est pour ça, je crois que quand on fait des rendez-vous politiques, on en a fait régulièrement, ça touche les jeunes. On dit beaucoup que la politique n'intéresse pas les jeunes. Nos rendez-vous politiques, quand on regarde les... Tout à l'heure, Damien parlait des audiences. Moi, je regarde évidemment l'audience globale, mais les 15-34 ans, les 15-24 ans, etc. Et nos rendez-vous politiques, ils marchent particulièrement bien, ils surperforment auprès de ces jeunes-là, parce que c'est très concret.
Du débat avec succès sur votre chaîne entre Mélenchon, justement, et Zemmour.
Ouais,
les jeunes étaient aussi au rendez-vous.
De façon massive. Ouais. Et ce qui m'a fait. Alors, après, évidemment, ça donnait un titre dans les gens. Je ne voulais pas me comparer à eux, mais je regardais ça. Il se trouve que, par exemple, il y avait plus de jeunes qui regardaient le débat Zemmour-Mélenchon que de jeunes qui regardent les Marseillais. Évidemment, je ne veux pas comparer, c'est pour dire cette catégorie de public qui plutôt s'intéresse à ce type de programme, sans jugement, c'est du divertissement, voilà. On peut les amener quand c'est traité différemment, quand il y a des codes de télévision différents, quand les journalistes qui incarnent BFM leur parlent de façon concrète, simple et pas de façon surannée. Je pense que cette génération de journalistes à BFM, elle sait faire ça. Et ben, à l'autre bout, il y a toute une catégorie de public, et notamment des jeunes qui regardent ces émissions de façon massive. Donc ce soir, avec Jean-Luc Mélenchon, l'ambition, c'est d'être très concret, et pas des grandes généralités, et pas des questions politiciennes un peu d'un autre temps.
Et face à BFM, donc, ne peut pas recevoir a priori, puisqu'il n'est pas encore déclaré comme candidat
Éric
Zemmour.
Non, quand il le sera, il viendra, mais pour l'instant, il ne le sera, puisque c'est vraiment l'idée de venir de programme précis du candidat.
On est en direct.
Première réaction ou question pour notre invité.
C'est ça, on est sur la page YouTube de TV Magazine et sur le Figaro.fr. On va prendre une première question de Romain sur YouTube. Il aimerait savoir quelle vedette du journalisme aimeriez-vous faire venir sur BFM TV. Vous avez fait venir Yves Calvi, notamment, ouais. En début de soirée. Il y a également Natacha Polony. On a Bruce Toussaint aussi en matinée. Est-ce qu'il y a un nom que vous avez en tête que vous aimeriez faire venir ?
Objectivement, non. Là, dans,
assez indiscret. Non, sont les négociations. Donc...
Non, il n'y a aucune négociation en cours. Mais il y a des tas de gens que j'aime beaucoup. Évidemment, et qui font ce métier très bien. Je ne dis pas que j'aimerais qu'elle vienne sur BFM TV, mais je trouve que Léa Salamé, par exemple, très bonne journaliste politique. Elle a déjà travaillé sur une chaîne info.
Attachée
au service public. Et encore une fois, il n'y a pas de discussion avec elle, donc je ne dis pas du tout. Mais voilà, évidemment, il y a des tas de gens partout qui ont du talent. Et je pense à Léa parce que je l'écoute le matin sur Inter. Je l'entendais ce matin avec Stéphane Richard. Et je trouve que c'est une très bonne journaliste qui a le sens du coup aussi. Stéphane Richard qui hier donne sa démission
d'Orange
après sa condamnation, il est lendemain sur Inter, c'est des choses qui me parlent, et voilà, mais il y en a plein d'autres, mais il y en a surtout beaucoup qui sont... Aujourd'hui, l'équipe de BFM, et c'était aussi depuis 2 ans ce que j'ai essayé d'amener avec Hervé Berrou, c'est de renforcer les incarnations. Je trouvais que l'information de BFM était extrêmement performante, forte, mais peut-être le lien avec le téléspectateur, c'est ce qu'il fallait encore un peu plus travailler, et d'avoir des incarnations fortes sur chaque tranche. Vous parliez de Bruce, qui, vous avez eu la gentillesse de lui faire live
de Télémac, d'ailleurs.
Bruce Toussaint, c'est une incarnation très forte. Yves Calvi, oui. Natacha Polony, Truchot Marshall, Boursier le week-end. Enfin voilà, et je pense qu'il y a ce lien avec le téléspectateur qui est un lien de confiance qu'on a essayé de développer depuis 2 ans et demi. Et les gens viennent regarder BFM, mais viennent aussi regarder un présentateur en qui ils ont confiance, qui n'est pas anxiogène. Le matin, la matinale chez nous est extrêmement performante, notamment chez les 15-34.
Avec Adeline François et Christophe Delay.
Ouais. Adeline et Christophe, ils ont un lien très fort avec le téléspectateur. Ça, je pense que c'est une vertu. Donc, il n'y a pas de trou dans la raquette pour vous répondre. Aujourd'hui, on est bien équipé avec des présentateurs solides qui ont un lien particulier avec le téléspectateur. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de développer, en fait.
Incarné, vous avez touché à l'habillage de manière assez importante et modernisé. Vous avez également modifié et renforcé la grille. Est-ce qu'il y a des objectifs que vous étiez fixés en arrivant il y a 2 ans et demi que vous n'avez pas encore atteint? Dont le chantier reste encore à venir.
Peut-être, si je fais mon autocritique, il y a plein de choses, hein, évidemment, au quotidien, mais je pense que aujourd'hui, BFM, c'est une chaîne solide, c'est toutes les codes d'une chaîne généraliste, ça marche très fort quand on fait ce débat et qu'on lance la campagne présidentielle avec Zemmour, Mélenchon, ça fait même des scores que nous-mêmes, on ne pensait pas pouvoir atteindre. Après, j'ai peut-être pas assez innové, en fait. J'ai rangé correctement la chambre, il y avait plein de choses. Je pense que c'est mieux rangé. Avec Hervé, on a beaucoup travaillé pour mieux présenter les choses. Après, peut-être que le truc suivant, ça sera l'innovation. Voilà. Une idée comme dans mon parcours.
C'est l'émission ou c'est de la mise en scène, de l'événementiel
Non, d'événementiel, il y en a, mais peut-être une idée de format, en fait. Moi, dans mon petit parcours professionnel, j'ai eu pas mal d'idées, lancé pas mal de gens. Je me rappelle, à l'époque, on me disait, mais ça ne marchera jamais, les SMS qui passaient sous l'écran. Donc, aujourd'hui, ça paraît même d'un autre temps.
Oui, aujourd'hui, ce sont les tweets.
C'est les tweets, mais à l'époque, c'était extrêmement novateur. On a fait pas mal de trucs comme ça. Ça, aujourd'hui, à BFM TV, j'ai pas eu, parce que la machine est chronophage, j'ai pas eu l'occasion de lancer quelque chose où on se dit, tiens, ça c'est totalement original, c'est extrêmement carré, professionnel. Je suis content par exemple d'avoir fait venir Maxime Switek, avec lequel j'avais bossé à Europe, et de l'avoir propulsé aujourd'hui, qu'il soit un des visages forts de la chaîne, et de s'être imposé dans le jeu politique, mais c'est pas, en soi, c'est pas suffisamment novateur, c'est une partie de mon boulot, mais la bonne idée d'émission différente et originale, objectivement, aujourd'hui, je ne l'ai pas eu.
On salue Sonia, Alexandre, Jean-Laurent, qui sont sur la page YouTube de TV Magazine. On va prendre une question de Tristan sur Twitter, qui aimerait savoir s'il vous arrive de recevoir des pressions de l'Élysée en tant que patron de BFM TV.
De l'Élysée, moi, je n'en prendrai pas le mot pression. Forcément, quand on est à la tête d'un média, vous êtes en contact en permanence avec l'exécutif, avec l'opposition, et il y a des choses qui plaisent, des choses qui ne plaisent pas, on les défend. De temps en temps, les retours qu'on nous fait peuvent être exacts, s'il nous arrive de nous tromper. Donc, il y a un peu l'idée et le fantasme qu'il y a des pressions, qu'on subit des pressions. Non, oui, c'est une chaîne qui est très regardée. Donc, forcément, elle est très commentée, notamment par les acteurs de la vie politique. L'Élysée, mais peut-être d'ailleurs moins l'Élysée, objectivement, que plein de gens ailleurs, dans les ministères ou dans l'opposition. L'Élysée, ils sont très peu réactifs pour dire la vérité. Et moi, quand un politique m'appelle, c'est le jeu régulier, je ne vis pas ça comme une agression. Je ne me dis pas, j'écoute, de temps en temps, je trouve qu'ils peuvent avoir raison, je justifie, et puis après, j'en fais bien ce que je veux avec mes équipes. Le côté, un appel politique, c'est forcément une agression journalistique. Moi, je ne souscris pas du tout à ça. Au début, jeune journaliste, on a plutôt tendance à penser ça. Oh là là, on veut nous museler et tout. Non, on a un échange courtois, raisonnable, de temps en temps avec des coups de pression, ça peut arriver. Et puis, on est des grands garçons et des grandes filles, on sait y répondre. C'est le jeu, mais rien.
Vous êtes une sorte de
diplomate. Jamais tordu d'interlocuteur. Ouais. Je pense que c'est important d'être un interlocuteur, simplement.
Et on rappelle que BFM, ce n'est pas le service public non plus.
Non, voilà. Et puis les gens, c'est bien normal aussi, je trouve, on parle de la vie politique toute la journée sur la chaîne, qu'ils puissent réagir et dire ce qu'ils en pensent et peut-être commenter et de temps en temps nous dire qu'on se trompe sur une interprétation, etc. Personne ne nous a rien imposé, en tout cas.
La présidentielle, il y a pas mal de projets. Il y a aussi un projet avec Jean-Jacques Bourdin, qui doit lancer une émission dans ce cadre. Ça devait être, en plus de son entretien donc, quotidien qu'il a à l'antenne. C'est quoi ce nouveau rendez-vous?
En fait, ça s'appelle « La France dans les yeux ». L'idée, on a regardé beaucoup la dernière campagne présidentielle américaine. Et en fait, toutes les chaînes ont ce qu'ils appellent des « town hall ». C'est le candidat à la présidentielle, enfin les candidats, face là-bas aux Américains dans des dispositifs assez spectaculaires. Ce que Jean-Jacques a voulu faire, c'est proposer aux grands candidats de la présidentielle de les déplacer dans une ville de leur choix face à une cinquantaine de Français et d'être l'intermédiaire entre le candidat et les Français. Donc on essaye de monter ça pour le mois de janvier. Il faudra aller vite puisque c'est long à préparer, il faut les caster, ces Français, etc. Mais Jean-Jacques est au taquet.
Ce sera pour l'ensemble, en effet, des prétendants.
Les gros candidats, comme on a plein d'émissions potentielles, on a ce face à BFM, on a plein de formats et de marques fortes. Certains iront se prêter à cet exercice, d'autres à d'autres exercices. On va essayer de satisfaire tout le monde, mais pas forcément tous les candidats ne vont pas passer dans ce format-là.
Donc rendez-vous en janvier.
Normalement.
Allez, une question de Virginie. Quel regard portez-vous sur l'irruption de Cyril Hanouna dans l'arène politique? C'est vrai qu'il va lancer bientôt une émission dans laquelle il va recevoir Éric Zemmour, Face à Baba, ça s'appelle.
J'ai vu ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Plutôt du bien. Après, ouais. Ça rejoint un peu d'ailleurs ce que je vous disais tout à l'heure. S'il arrive à intéresser un public à la politique et un public qui n'y va pas spontanément avec d'autres codes, et voilà, moi, je n'ai pas d'a priori en bouchant le nez en me disant pourquoi Cyril Hanouna. Moi-même, quand j'étais animateur journaliste, je recevais des hommes politiques. J'ai présenté, je me rappelle, c'était en 2007, je crois, oui, la soirée présidentielle sur M6, ouais. En mélangeant les genres. Je serais le plus mal placé pour donner des leçons à Cyril Hanouna, même si on ne fait pas exactement la même chose.
Mais il n'y a pas de chasse gardée.
Non, il n'y a pas de chasse gardée. Non. Après, les politiques savent où ils vont, comment ils y vont. Et parler à Cyril Hanouna, ça ne me paraît pas… il n'est pas infréquentable. Ouais.
Et Éric Zemmour, c'est un bon client finalement pour les médias et pour la télévision en particulier. Il y a toute une polémique de savoir si les journalistes en font trop, qu'on ne devrait peut-être pas le recevoir sur tous les plateaux, tant qu'il n'est pas déclaré candidat en effet.
Il faut faire un travail journalistique avec Éric Zemmour, il ne faut pas lui dérouler le tapis rouge et puis il faut raconter sa campagne. Voilà. Mais indéniablement, Éric Zemmour, il a bouleversé la campagne présidentielle, le début de campagne présidentielle. On va voir puisque ça va rentrer dans le dur en janvier, mais depuis septembre, l'événement politique de cette campagne, c'est son arrivée. Et puis les médias, en tout cas BFM, a accompagné ça de façon journalistique, avec des angles régulièrement, en le recevant, en le questionnant, en lui opposant des faits. Je ne pense pas que ce soit les médias qui créent le phénomène. Je pense que le phénomène existe et les médias l'accompagnent.
Damien.
Allez, une question de Cyril. Tiens, mais alors, c'est pas Cyril Hanouna, cette fois-ci. C'est un autre. Il va pas réagir à ce que vous aviez dit juste avant. Il aimerait savoir une question argent. On gagne mieux sa vie en tant que directeur de chaîne ou bien en tant qu'animateur?
En tant qu'animateur, largement, en fait.
C'est vrai?
Oui, mais c'est normal. Hein. Ouais. Moi, je me rappelle.
Animateur-producteur.
Même animateur. Animateur. Après, on fait de. C'est un autre métier, oui. c'est d'autres critères financiers. Je gagnais mieux ma vie en étant animateur-producteur, puis à la radio j'ai beaucoup moins gagné ma vie, mais ça m'a intéressé tout autant, puis aujourd'hui je gagne moins bien ma vie, mais je reste un privilégié. Mais
vous n'êtes pas motivé par l'argent au regard des choix que vous faites?
En fait, moi, j'ai eu la vocation quand j'étais gamin de faire ce métier-là. Et s'il y a un fil conducteur dans mon parcours professionnel où il y a eu des grosses ruptures, c'est de continuer tout le temps à apprendre. Et donc, j'ai eu la chance de gagner beaucoup d'argent en faisant de la télévision, mais ce n'était pas mon moteur en y allant. Et au bout d'un moment, je me suis dit, soit je reste pour le confort, ce qu'on m'avait proposé. J'avais des contrats. Quand j'ai fermé ma boîte pour suivre Alexandre Bompard à Europe 1, j'ai renoncé à un contrat de 30 millions d'euros pour l'année suivante. Ce n'était évidemment pas du bénéfice, c'était un chiffre d'affaires pour une société où il y avait 150 salariés. Mais je me disais, est-ce que c'est pour cette raison que j'ai choisi de faire de la télé? Non, et j'y avais moins d'intérêt au quotidien. Et donc, à chaque fois, quand je fais des choix professionnels, je me dis, est-ce que la nouvelle aventure va m'intéresser? Et jusqu'à là, je n'ai pas été déçu.
Voilà. On oppose souvent, vous êtes un spécialiste des chiffres, BFM TV et CNews, qui est un peu la petite chaîne d'info, entre guillemets, qui monte. 2,2% de part d'audience en octobre, 2,6% pour BFM. Il n'y a pas péril en la demeure? Ou est-ce que vous suivez ça
je crois.
Vous suivez ça avec beaucoup d'attention?
Forcément, quand on regarde la concurrence, après, non, pas avec beaucoup d'attention, dans la mesure où c'est vraiment deux formats tellement différents, c'est totalement autre chose. C'est sous le vocable chaîne info, mais en fait des choses tellement différentes.
Aussi, citer.
Non, objectivement, on ne regarde pas ça avec beaucoup d'attention. Forcément, c'est commenté médiatiquement, mais c'est, moi, je ne le vis pas du tout comme un concurrent. Et puis après, quand on regarde l'année, je crois qu'on est à 2-8, ils sont à 2, autant que je. Tout va très bien, en fait. Tout va très bien, c'est plutôt du commentaire du moment, mais non, on ne regarde pas ça avec beaucoup d'attention.
Et est-ce qu'il y a des choses chez à la fois CNews, mais également LCI, vous trouvez intéressant, vous pourriez vous inspirer ou pas, ou globalement, quand vous faites veille concurrentielle, vous dites, finalement, on a tous les formats qu'il faut, outre ceux que vous voulez souhaiter inventer pour demain. Est-ce qu'il y a des choses bien chez eux qui seraient bien aussi chez vous?
Alors, attends, est-ce que je vous dis, fasse pas de langue de bois. Quand je regarde LCI, qui est très professionnel, mais très différent, je trouve que leur truc sur la vérif, là, le code... on va pas refaire ça, mais je trouve que c'est une bonne idée. C'était une bonne idée, mais non, il n'y a rien dans leur grille où je me dis ça nous manque, vraiment pas, mais voilà, c'est autre chose. Et puis sur CNews, est-ce qu'il y a quelque chose de transposable chez nous? Je ne crois pas, non, vraiment je ne crois pas.
Damien.
Allez, une question de Jayden, est-ce que vous envisagez de faire un débat de l'entre-deux-tours sur BFM TV avec par exemple un partenariat avec LCI? C'est vrai que traditionnellement le débat de l'entre-deux-tours se déroule sur une grande chaîne comme TF1, ouais. France Télé. Est-ce que vous avez aussi votre rôle à jouer là-dedans? Bah,
évidemment qu'on a notre rôle à jouer, je ne sais pas si on arrivera à le jouer cette fois-ci, ouais. Mais on va s'y employer, oui, ouais. Je pense que finalement ces débats d'entre-deux-tours, ils datent de l'ORTF un peu, comme ça, avec Alain Duhamel qui, ouais, est maintenant chez nous. Je pense qu'aujourd'hui le paysage audiovisuel, il a été tellement bouleversé, ça ne peut pas être quelque chose qui soit immuable depuis tant d'années. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui doivent intervenir, et notamment peut-être même des acteurs de plateforme, j'en sais rien. Mais oui, on compte bien faire entendre notre voix et oui, essayer entre deux tours de peser quelque part.
Vous proposerez aux deux candidats finalistes un débat de l'entre deux tours
Peut-être pas tout seul, parce qu'il faut pas. Mais on réfléchira au dispositif. Mais en tout cas, le dispositif tel qu'il existe depuis toujours et de façon immuable, il est en décalage total avec l'évolution aujourd'hui de ce qu'est la télévision et notamment des chaînes info. Très clairement.
Vous donnez davantage de place, on a parlé rapidement tout à l'heure sur les longs formats, sur BFM. Dans la case d'ailleurs, Ligne Rouge, programmée en prime time lundi prochain, vous allez diffuser une grande enquête sur la communauté appelée La Famille.
Passionnante enquête de Marie Perrault. Vraiment, j'y ai appris plein de choses. La Famille, en fait, il y a pas mal de journalistes déjà qui ont enquêté dessus, mais là, c'est la première fois que c'est mis en image de cette façon sur 3 épisodes. C'est en fait
une
série de 3 épisodes, comme on avait fait la série d'Aval, comme on avait fait la série de Ligonnès, comme on avait fait les attentats de novembre. On avait fait ça donc en septembre. C'est une communauté qui existe en France depuis 200 ans, une famille qui ne se marie qu'entre eux, en fait, hein, qui ne peuvent vivre. Mais ce n'est pas une secte, hein, la Miviludes a regardé ça de près. Communauté religieuse avec des familles qui ont des dizaines d'enfants en autarcie dans le 20e arrondissement de Paris, entre le 11e et le 20e arrondissement de Paris, qui sont scolarisés.
Très proche de chez nous, donc.
Ah, mais enfin, c'est très étonnant, et qui ont leur code à eux. Ils ne peuvent pas se marier autrement qu'entre cousins, autrement ils quittent la famille et ils ne revoient plus leurs parents, leurs enfants, leurs frères et sœurs, etc. C'est une enquête passionnante avec des témoignages de l'intérieur, et c'est lundi prochain sur BFM TV. Et il y a eu déjà plein de papiers, c'est la première fois là qu'il y a des témoignages de l'intérieur avec des gens qui racontent comment ça se passe, justement pour démystifier. Et on découvre un univers. C'est assez dingue, en fait, comme série.
Prochain,
ouais, c'est assez dingue comme série.
Une question de Sandrine, toujours sur Twitter, qui aimerait savoir si l'interview de Nicolas Hulot diffusée hier sur BFM TV n'était pas un peu prématurée. Hier, c'est vrai que BFM TV a proposé cet entretien face à Bruce Toussaint dans le cadre d'une émission qui sera diffusée ce soir sur France 2, sauf que l'émission n'était pas diffusée au moment de l'entretien. Est-ce que c'est pas arrivé un peu tôt, c'est vrai?
Je crois pas, parce que Nicolas Hulot, en fait, c'est la première fois. Enfin, c'est une question qu'on peut se poser, je la comprends, mais quand on n'a pas vu l'interview de Bruce Toussaint, c'est la première fois que Nicolas Hulot a été confronté à ce type de questions, et notamment dans l'affaire Pascal Mitterrand, qui est la première histoire qui lui a été reprochée à l'époque par un journal qui a fermé depuis, où on parlait d'agression sexuelle. Il n'était jamais amené à s'expliquer. Là, par exemple, il a reconnu une relation consentie avec Pascal Mitterrand. Il parle de sa relation avec les femmes. Et hier, quand on regarde l'interview de Nicolas Hulot, c'est la première fois qu'il a été confronté à ce type de questions. Quand on a la possibilité, on aurait pu la faire après. En l'occurrence, ça n'avait pas été possible. Il a voulu la faire avant. sans poser aucune autre condition. Toutes les questions lui ont été posées. On a appelé l'envoyé spécial pour savoir s'il voulait nous montrer le document. Ils n'ont pas souhaité le faire. Ça aurait pu nourrir l'interview. Ils n'ont pas souhaité le faire. Mais je ne pense pas qu'il aurait répondu autre chose après. Toujours est-il que Bruce a été remarquable dans son interview hier. Toutes les questions lui ont été posées. Et quand on a un acteur de l'actualité qui est prêt à répondre à des questions à ce moment-là, on aurait eu tort de s'en priver, je pense.
On voit aujourd'hui dans les médias, là je parle au patron des médias, patron de BFM, une forte concentration quand même qui s'accélère. L'irruption brutale et quand même rapide de Vincent Bolloré, qui a notamment mis la main sur Europe 1, maison que vous connaissez bien, il a passé quelques années et les matinales. TF1, M6 qui se rapproche, qui fusionne, M6 vous connaissez également. C'est le sens de l'histoire ?
Je crois, oui, qu'il y ait des gros groupes qui se constituent et qui fassent… qui
essayent… – Fausse commune, d'une certaine manière.
– Oui, alors après, il y a plein de questions qui se posent, hein, entre TF1 et M6, est-ce que tout ça… Enfin, il y a la concurrence qui doit regarder ça de plus près, comment…
– Voilà, le CSA aussi, d'ailleurs.
Le CSA, évidemment, mais en tout cas, je vois bien dans le groupe dans lequel on est, le groupe Altice, qui est un groupe puissant, fort, adossé donc à SFR, être en tout cas adossé à des groupes solides qui donnent des moyens, et notamment quand on fait de l'info, moi je ramène ça juste à ma paroisse, je ne veux pas commenter ce que font les autres, mais nous, pour pouvoir faire ce qu'on fait, 300 journalistes qui se déploient tout le temps, avec des moments quand on est touché par la pandémie, où il n'y a plus de rentrée publicitaire, mais où on a des coûts quand même qui sont exponentiels, eh ben, il faut des groupes solides derrière. Donc la constitution de groupes solides, en tout cas, ça me semble être pas quelque chose qu'on doit dénoncer a priori, mais plutôt saluer, parce que ça permet, notamment quand on fait de l'info, de faire son travail. Après, dans les fusions TF1-M6, dans les problématiques Bolloré, à chaque fois, il y a des problématiques différentes, mais le fait qu'il y ait des groupes, en tout cas, solides, moi, je trouve ça plutôt vertueux plutôt que problématique.
Un groupe qui appartient, je rappelle, à Patrick Drahi.
À Patrick Drahi, ouais.
Le groupe d'Altice, il a toujours aussi fin d'acquisition. On a vu acheter énormément de choses dans la téléphonie, dans les médias.
En tout cas, oui. Je ne sais pas s'il a faim d'acquisition, mais il regarde, et ça serait une erreur de ne pas le faire, ce qui est disponible ou pas, ce qui serait cohérent ou pas, d'être vigilant sur ce marché qui bouge et être agile, comme on dit, ça serait une erreur professionnelle de tourner la tête et de ne pas regarder ce qui s'y passe.
Damien.
Allez, une dernière question de Corentin qui souligne qu'on connaît bien l'animateur que vous êtes, on connaît beaucoup moins bien le patron, normal, hein, il faut bosser avec vous pour vous connaître en tant que patron. Quel genre de patron êtes-vous ?
Oula.
Est-ce que vous êtes un patron dur, bienveillant
Je pense que je suis bienveillant. Je pense que comme j'ai fait pas mal de boulot dans ma vie, et notamment les petits, je comprends à peu près toutes les difficultés. Voilà, comme j'ai plus 20 ans, je suis moins impatient, donc je pense être plus compréhensif. Ouais. Je pense être exigeant, et cette exigence, ça fait un peu langue de bois, mais je me l'applique d'abord à moi-même. Après, je suis peut-être pas assez communicatif. Mmh. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'ordre du tacite. Hein, et je crois que quand on est à la tête d'une grosse structure comme BFM, il faut peut-être être plus explicite qu'implicite. Et je suis peut-être encore un peu trop implicite. Et c'est peut-être mieux.
Les gens doivent comprendre ce que vous voulez faire ou dire.
Ou dire. Et
sans dire explicitement, donc.
Ouais, et je pense que si j'ai des progrès à faire, c'est peut-être là-dessus.
Alors, c'est parfait pour enchaîner avec notre. Suite de cette émission avec notre dernier rendez-vous qui s'appelle En toute franchise.
Alors, on va
essayer. La sincérité. Votre plus beau souvenir de carrière, sincèrement.
C'est difficile, mais moi,
j'ai fait plein de choses.
Mais en tout cas, l'aventure professionnelle que j'ai eue à Europe 1 avec Alexandre Bompard, et parce que c'était Alexandre Bompard,
qui est aujourd'hui
patron de Carrefour et qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis, reste pour moi quelque chose de très particulier. J'ai vécu ces 3 ans de façon. Pourtant, j'ai fait des choses beaucoup plus intenses avant et même d'ailleurs des fois après. J'ai vécu des moments de news très forts. Mais ces 3 ans-là, c'est aussi un moment où j'ai construit ma famille, où je suis devenu papa. Donc, mon aventure à Europe avec Alexandre Bompard, d'ailleurs, on m'avait proposé Europe 1 avant qu'il n'arrive et j'avais refusé, donc je suis allé que parce que c'était lui.
Fondateur.
Ça reste un moment très fort pour moi, en fait.
Votre pire souvenir maintenant ?
Ça, j'ai eu déjà l'occasion de le dire, mais l'interview que j'avais faite de Dieudonné, où pour des raisons techniques, je n'avais pas vu qui dérapait à ce point et je ne l'ai pas suffisamment ramené là où j'aurais dû le ramener. Ça reste pour moi un très mauvais souvenir professionnel.
Est-ce que vous avez une manie, un tic, voire un toc que vous rentrez, à l'époque c'était sur un plateau télé, mais aujourd'hui dans les locaux de BFM,
sur un plateau télé, je prenais, ça faisait rire tout le monde, de la vitamine C. Ah, donc on dit, mais normalement, il y a de la drogue sur les plateaux télé, non? C'est ça la réputation. Moi, je prenais de la vitamine C à haute dose, à 20 ans, donc, sans aucun effet, sauf que psychologique.
Il en faut toujours chez BFM, de la vitamine C.
De la vitamine C non, j'en prends beaucoup moins. Non, j'ai plus de toc à BFM TV. Non, c'est vrai, vitamine C, mais sur tous les plateaux de télé dans lesquels je rentrais, je prenais mon petit truc de vitamine C. Avant, c'était assez ridicule. C'était mon seul toc.
C'est un cérémonial.
C'était, pardon.
Ça faisait rien, un cérémonial plus qu'autre chose, non?
C'était un cérémonial, mais j'étais persuadé que ça me boostait à fond. Ouais. Mais je crois que voilà, c'était dans ma tête.
Si vous n'aviez pas été journaliste, producteur, dirigeant de chaîne, présentateur, vous auriez exercé quel métier?
Ça, je sais, j'aurais été avocat.
Avocat.
Ouais, j'ai beaucoup, à un moment donné, justement, avant d'aller à Europe 1, et je me cherchais beaucoup, j'avais envie d'avoir une césure professionnelle pour mille raisons, et notamment parce que c'était post-tsunami où j'avais été fauché en Thaïlande quelques années avant. Bon, bref, et je cherchais un moment pour me recentrer. Europe 1 m'a permis ça. J'avais beaucoup échangé avec Eric Dupont-Moretti, que je connais bien, et je devais aller dans son cabinet, en fait, à Lille, stagiaire pendant un an. Il avait accepté, mais il m'en avait après dissuadé en me disant « Mais tu vas t'emmerder, ça ne va pas être pour toi, continue ta vie professionnelle de journaliste. » et c'est lui aussi qui m'a conduit à Europe 1 plutôt que dans son cabinet. Mais ça reste une frustration forte. J'aurais adoré, je pense, faire ça.
Vous avez gardé un lien, entre guillemets, affectif avec Eric Dupont-Moretti? Oui. Oui. Vous voyez toujours
Est-ce que vous avez un mentor?
Oui, Yves Mourouzi.
Yves Mourouzi.
Yves Mourouzi.
Pour quelle raison?
Ça ne dit plus rien à beaucoup de gens, hélas, à vous.
Oui, oui.
Mais parce que...
Un peu moins.
Parce qu'aujourd'hui, ça paraît assez...
Il a incarné le journal télévisé, il faut le rappeler.
Ouais, il faisait donc le journal de 13h. Oui. Hein, ouais. Et en même temps, dans ce journal de 13h, il mélangeait tous les codes. On se souvient, parce que c'est l'image qui passe, mais il n'y avait pas que ça. Assis sur le bureau de Mitterrand, dans un sous-marin.
Parfois dans des tenues improbables.
Dans des tenues improbables, avec Iggy Pop, etc. Et c'est... être autant crédible sur l'information, parce qu'il n'avait aucune difficulté de crédibilité, et à l'esprit aussi large pour pouvoir aller dans le divertissement, et tout ça, le mélanger, et l'un venait nourrir l'autre sans que l'un vienne décrédibiliser l'autre, au contraire, venait le renforcer. J'ai eu la chance de le connaître. Au début, quand j'ai commencé l'antenne, où j'étais vraiment très, très mauvais, il m'appelait, il me disait après, tu sais quoi, tu as une singularité, continue. Et surtout, ne rentre pas dans les codes. Vraiment, au début, je voulais arrêter, je ne savais pas faire ça, j'étais mal à l'aise, etc. Il m'a dit, tu as un truc, cultive-le et cultive ta personnalité. Et vraiment, Yves Mourouzi, oui, si j'ai un mentor, c'est Yves Mourouzi.
À une époque, vous aviez déclaré deux choses. Vous rêvez de diriger une chaîne ou bien de présenter un JT. Vous parliez d'Yves Mourouzi, c'est une transition parfaite. Est-ce que si demain, on vous cède les rênes d'un JT, vous y allez?
Non, je ne crois pas aujourd'hui, en fait.
C'est fini, ça?
Non, ouais, je ne crois pas. Non. Il ne faut jamais dire jamais, j'en sais rien, parce qu'en fait, j'ai jamais eu de plan de carrière, en fait. Ouais. Les choses se sont présentées à chaque moment, et puis j'ai dit oui un jour. Enfin, un truc pour lequel j'aurais pu dire non 3 mois avant, j'ai dit oui 3 mois après, parce que c'était des circonstances. Donc, je ne sais pas, un journal. En tout cas, je ne fantasme pas sur l'idée de présenter un journal télévisé, et je ne sais pas, en fait, surtout, quelle serait ma valeur ajoutée, en fait. À chaque fois que j'essaye de prendre un poste ou aller dans une... Je me dis, qu'est-ce que je peux amener? Est-ce que je peux amener quelque chose? Et voilà, sur un journal télévisé, je ne sais pas si j'aurais une spécificité propre, en fait.
En raison de la différenciation, c'est bientôt l'élection présidentielle. Dans quelques mois, ça n'a pas échappé à BFM TV.
Je confirme, ouais.
Allez, soyons fous, vous êtes élu chef de l'État. Votre première décision?
Ce qui est peut-être le domaine, parce que la décision, j'en sais rien, mais on parle beaucoup d'immigration en ce moment. On parle de sécurité. Ça ne serait certainement pas dans ce domaine-là, ça serait une mesure de pouvoir d'achat. Je ne sais pas laquelle, parce qu'il faut être technicien, bien. Mais que grosso modo, puisqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui, on est quasi au plein emploi, mais qui ne vivent pas de leur travail, et c'est ça le paradoxe, comment les gens qui n'arrivent, qui bossent, mais qui le disent du moins, galèrent, comment leur donner du pouvoir d'achat? Je ne sais pas quelle mesure je prendrais, je ne suis pas un homme politique, mais en tout cas, c'est cette réflexion-là que j'essaierai de mener, comme ils le font tous, hein, en fait, chacun avec leur... Mais en tout cas, c'est ce domaine-là, cette thématique-là que j'irai explorer, moins que d'autres qui existent, mais qui, à mon avis, préoccupent moins les Français.
Damien.
Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique?
Ah,
dans
ma apparence physique, tout, donc c'est assez simple.
Et tout,
ça,
non.
Si.
Vous êtes si complexé que ça?
Et depuis toujours. Oh. Donc la télé m'a un peu aidé à
faire violence.
À faire violence, mais donc tout, voilà.
Caractère.
Et dans mon caractère, je vais être très prétentieux, mais je me suis bonifié, en fait, je crois, avec le temps. Ouais, je crois que je me suis bonifié. Je pense que cette espèce d'impulsivité que je pouvais avoir et qui donnait lieu à des tas de malentendus, je pense que j'ai su, par l'expérience, par l'analyse, par plein de choses, j'ai su me nourrir des... En tout cas, j'ai su me nourrir des expériences et de mon caractère, finalement, non. Je pense qu'il n'y a rien de chez moi où je me dis...
Vous vous êtes assagi.
Je me suis bonifié, je dirais.
Bonifié.
De façon très prétentieuse, je dirais bonifié, en fait, puisqu'il s'agit. Parce que non, je ne suis pas très sage, en fait.
Comme les grands crus.
Ouais, comme les grands crus. Non, je ne suis pas très sage, mais je suis mieux aujourd'hui qu'hier.
Allez, on termine sur une note légère. La chanson que vous écoutez en boucle en ce moment.
Je réécoute du Juliette Armanet en boucle en ce moment. J'adore Juliette Armanet. Donc, là, j'ai vu qu'elle est à nouveau dans l'actualité. Je réécoute le premier album en boucle en ce moment, en fait. Hein.
Elle a fait une petite vidéo qu'elle a postée, je ne sais pas si vous l'avez vue sur Twitter. Elle est elle-même devant une affiche dans le métro. Elle est
ouais, en train j'ai
de
vu ça,
chanter.
Ouais.
Les gens passent devant.
Vraiment, j'adore ce qu'elle fait.
Merci, Marc-Olivier Fogel. Merci d'être venu dans
Encore
Buzz Télé.
Hein.
Je rappelle, vous êtes directeur général de BFM. TV pour la première chaîne d'info de France. Et demain, nous avons un nouveau rendez-vous.
Oui, mais quelqu'un que vous connaissez très bien, qui a officié pendant de nombreuses années sur France 3. France 3, d'ailleurs, lui rend hommage dans un documentaire qu'elle-même... Ouais, c'est Mireille Mathieu.
Mireille Dumas. On a commencé Mireille Dumas, à France 3, en fait. À France 3, voilà. En 2000. Hein.
Oui.
France 3 l'a récupérée à ce moment-là, et moi, j'arrivais. Et elle a été même un peu déterminante dans mon choix d'aller à France 3, puisqu'on me proposait d'aller à France 2, ou France 3, qui était à l'époque une chaîne très senior. Et je trouvais que la volonté de France 3, à l'époque de Bertrand Moscade et de Marc Tessier, vraiment un des meilleurs présidents de France Télévisions, de redonner un souffle à cette chaîne, ça m'avait parlé. Et le fait d'y aller avec Mireille, ça m'avait beaucoup parlé.
Ça vous avait beaucoup. Eh bien, écoute, on parlera demain. Elle sera sur ce plateau.
Mireille Dumas, sur ce plateau voilà. Demain.
On s'est embrassé
à midi.
Sur la bouche sur son plateau à Mireille.
Eh bien, on lui demandera l'effet que ça lui a fait.
Les gestes barrières.
Les gestes barrières.
Merci, Marc-Olivier Fogel.
Merci beaucoup. Merci.